Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est le mardi 8 mai 2018. Hélène Denis avec vous en cette magnifique journée, temps printanier presque. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Alors êtes-vous venu cheveux au vent, non, avec un casque sur la tête quand même, travailler avec... En scooter?
Oui, on profite du beau temps, on profite de la belle saison qui s'installe.
Oui,
disons-le.
Disons-le, affirmons-le. Alors, la chronique du 8 mai avec vous, mon cher, les éphémérides.
Et on débute tout d'abord 8 mai et une des deux journées du souvenir de la réconciliation en l'honneur des morts de la Seconde Guerre mondiale. Journée au pluriel pour le 8 et 9 mai. Pourquoi deux jours pour se souvenir de cette grande guerre, outre le fait que bon, c'est un événement très marquant du siècle dernier? Eh bien, la raison est fort simple. Je vous parlais hier de la reddition qui avait été signée par l'Allemagne à Reims le 7 mai. Et le 8 mai, une seconde reddition est signée, cette fois à Berlin, avec plus de personnes. Donc, vu que deux documents ont été signés, le lendemain des deux signatures correspond à deux jours marquants. Pour souligner cette fin de la guerre.
Et en Allemagne.
Exact. Autre événement marquant, donc dans cette chronique, des bons souvenirs, des moins bons souvenirs quand même, et des faits cocasses. 46 avant Jésus-Christ, Jules César adopte Octavien, le futur empereur Auguste. En 1541, l'explorateur Hernando de Soto découvre le Mississippi. 8 mai 1731, le roi Louis XIII finance la construction navale en Nouvelle-France. 1794, Antoine Laurent Lavoisier, chimiste, et bon, il avait beaucoup d'autres chapeaux, mais on va arrêter son curriculum vitae à chimiste, découvreur de l'oxygène et père de la chimie moderne, et guillotiné à Paris. Comme quoi, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Il découvre l'oxygène et on le guillotine.
Oui, mais pas de causalité entre les deux, mais tout de même. 8 mai 1886, le pharmacien et chimiste américain John Stith Pemberton d'Atlanta en Géorgie invente la boisson gazeuse la plus célèbre de tous les temps.
Coca-Cola!
Dont le succès a été assuré entre autres par la prohibition aux États-Unis. On ne pouvait pas prendre de bière ou autre alcool, eh bien on prenait du Coca-Cola.
Tellement bon pour la santé.
Mais oui. 8 mai 1963, Sean Connery fait sa première apparition en tant qu'agent 007 dans le film Dr. No.
Ah oui, avec Ursula Andress, l'inoubliable.
1978, Jacques Mesrine s'évade de prison. Et de l'autre côté de l'océan, le tueur en série américain David Berkowitz, que les Américains connaissent comme étant Son of Sam, plaide coupable pour les 6 meurtres et nombreuses tentatives de meurtre qu'il a commis. 8 mai 1980, tout de même une bonne nouvelle, l'Organisation mondiale de la santé annonce que la variole, responsable naguère de centaines de milliers de morts par année à travers le monde, a été éliminée de la surface du globe suite à une campagne de vaccination qui aura duré un peu plus de 12 ans menée dans une quarantaine de pays. 8 mai 1982, moins bonne nouvelle, on s'en rappelle, le pilote québécois Gilles Villeneuve meurt à la suite d'un accident sur le circuit de course en Belgique. 1984, la Russie annonce son boycott des Jeux olympiques de Los Angeles. Et 1984, 8 mai, une date qui dit encore de quoi dans notre mémoire collective, avec une mitraillette, Denis Lortie tue 3 personnes à l'Assemblée nationale. 1987, le Canada lance la pièce de 1$ en métal, le UR.
Oui.
Donc le UR, 1987, il a donc 31 ans aujourd'hui.
Déjà, ça va trop vite.
1996, en Afrique du Sud, la constitution post-apartheid est adoptée. 1998, encore un 8 mai, la rupture d'une conduite d'aqueduc à Kuala Lumpur prive d'eau 1 million de citadins. Déjà, 2 autres millions de Malaisiens souffraient déjà de pénurie d'eau, donc on parle de plus de 3 millions de personnes sans accès à de l'eau. Et en 2007, André Boisclair démissionne comme chef du Parti québécois. Anniversaire en ce 8 mai du fondateur de la Croix-Rouge, Henri Dunant, né en 1828. Et décès, autre fait dont on se souvient, en ce 8 mai, en 2000, il y a donc 18 ans aujourd'hui, disparition du chanteur et poète André Fortin, du groupe Les Colocs. En 1903, disparition du peintre français Paul Gauguin. Et finalement, l'auteur de Madame Bovary, Gustave Flaubert, disparaît en 1880.
Il y avait du triste et du cocasse et du beau et du moins beau. Merci Jean-Sébastien.
Avec plaisir.
À la une de la presse, lac mégantique exclusif, feu vert à la voie de contournement. Québec et Ottawa s'entendent sur le financement d'une voie de contournement pour sortir les convois du centre-ville de lac mégantique, coût du nouveau tronçon, 133 millions. La chronique de Patrick Lagacé, Denis Arcan et les enragés. Grande entrevue à faire, Desjardins, une bougie d'allumage en région. Sommet du G7, la presse à la Malbaie, bienvenue dans la forteresse. Art, la voix, Yama Laurent, la gagnante qui vient de loin. Alors, à 5 mois des élections générales, le gouvernement fédéral donne de nouveau le feu vert à une annonce importante pour le gouvernement Couillard. Québec et Ottawa s'entendent sur le financement d'une voie de contournement pour la voie ferrée qui évitera le centre-ville de Lac-Mégantic. La facture s'élèvera à 133 millions. Philippe Couillard et Justin Trudeau en feront l'annonce vendredi à Lac-Mégantic. Seront aussi présents les ministres André Fortin, Transport, et Laurent Lessard, Agriculture. Le député libéral sortant, Ghislain Bolduc, sera également présent. Ce sera son testament politique. Il a déjà fait savoir qu'il ne serait pas de nouveau candidat. Du côté fédéral, on compte sur la présence de Marc Garneau, responsable des transports. La tragédie de Lac-Mégantic, où 47 personnes ont perdu la vie, a eu lieu en juillet 2013. Il y aura 5 ans cet été. À la fin du mois de janvier, Justin Trudeau s'était engagé par Twitter à ce qu'une annonce soit faite avant le 5e anniversaire de l'événement. C'est un deuxième coup de pouce d'Ottawa pour permettre à Québec de nettoyer l'ardoise avant les prochaines élections. Il y a un mois, les deux gouvernements s'étaient entendus pour injecter 362 millions afin de préparer le projet du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. Selon les informations réunies par la presse, le coût de cette nouvelle voie d'environ 11 km sera de 133 millions. Ottawa prendra 60 % de la facture, le reste sera de la responsabilité de Québec. Un partage habituel pour les projets d'infrastructures cofinancés. Les travaux d'ingénierie requis feront que le chantier ne débutera que plus tard en 2019 au plus tôt, et les travaux dureront environ 2 ans. La voie de contournement pour éviter que les convois passent par le centre-ville de Lac-Mégantic est une revendication constante des citoyens inquiets de voir les wagons-citernes toujours transiter par le centre-ville. Piétons et cyclistes aussi victimes des nids de poules. Crac, les automobilistes dont la suspension a été brisée par un nid de poule montréalais ce printemps devraient se compter heureux que la cassure ne se soit pas plutôt produite dans leurs jambes ou dans leurs bras. Des piétons et des cyclistes n'ont pas eu cette bonne fortune, révèlent des décisions de justice rendues dans les derniers mois. Le populaire animateur de radio à Chaume FM, Terry DiMonte, se promenait dans Notre-Dame-de-Grâce sous le magnifique soleil qui rayonnait dimanche dernier, lorsqu'il s'est affalé sur le trottoir. Il venait de trébucher dans l'un des trous qui parsèment le trottoir de la rue Oxford. Je sais que ça peut sembler bizarre à dire, mais à NDG, certaines rues sont dangereuses. Les trottoirs sont en si mauvais état que c'est dangereux, a-t-il expliqué en entrevue téléphonique hier soir. Il y avait une arête du trottoir qui était en très mauvais état et mon pied a glissé en bas du trottoir. J'ai fait une grosse chute, a poursuivi le quinquagénaire qui mesure 6 pieds. Je viens de sortir de chez le médecin, j'ai un œdème au coude et je vais aller passer une radiographie de mon épaule ce matin. Son médecin croit toutefois qu'il devrait s'en sortir sans fracture. Ce n'est pas le cas de la Montréalaise Guylaine Allary qui a récemment gagné son procès contre la ville, presque 19 000 $ dont elle aurait bien voulu se passer. Elle avait chuté un soir de 2013 dans la rue Sainte-Catherine après que son pied est resté coincé dans un trou sur le trottoir. Fracture à une jambe suivie d'un caillot de sang dans un genou, une phlébite, au cours du processus de guérison. Des cyclistes ont aussi gagné leur procès contre la Ville de Montréal dans les derniers mois pour des accidents causés par des nids de poules. Malgré les protestations de la Ville, le juge Dufour a estimé que l'emplacement du trou combiné au mauvais éclairage rendait la chute, pour ainsi dire, inévitable, donc une chute d'un cycliste qui s'appelle Jules Lefebvre. Toutes ces victimes ont réussi à prouver à la justice que la Ville avait été négligente dans son entretien. Les municipalités ont l'obligation de faire le nécessaire pour maintenir leurs infrastructures en bon état, mais ne peuvent être tenues responsables de chaque nid de poule ou de chaque trottoir en mauvais état. En plus d'interdire la circulation de transit au sommet du Mont-Royal, la Ville de Montréal réduira à 40 km/h la limite de vitesse sur le chemin traversant la montagne. Les élus du conseil d'arrondissement de Ville-Marie seront appelés à voter ce soir sur une réduction de la vitesse de la circulation sur la voie Camillien-Houde et le chemin Remembrance. Cette mesure a été proposée par le comité de travail mis en place à la suite de la mort en octobre 2017 du cycliste Clément Ouimette, tué par une voiture ayant fait un demi-tour, une manœuvre illégale. La sélection des 12 jurés du procès pour fraude et corruption dans les affaires municipales de Tony Accurso s'est amorcée hier matin au Palais de justice de Laval. Le processus de sélection des 12 jurés doit s'échelonner sur 3 jours en vue du début du procès jeudi matin. Le procès devrait durer environ 5 semaines pour se conclure à la mi-juin. Antonio Accurso fait face à 5 chefs d'accusation, fraude de plus de 5 000 $ à l'endroit de la Ville de Laval, abus de confiance par un fonctionnaire public, corruption dans les affaires municipales, complot afin de commettre des actes de corruption et complot afin de commettre des fraudes. Vladimir Poutine a prêté serment hier pour son 4e mandat à la présidence de la Russie, qui le mènera au pouvoir jusqu'en 2024 après déjà 18 années aux commandes du pays en tant que chef de l'État ou du gouvernement. Le théologien musulman Tariq Ramadan, accusé de viol par 4 femmes et incarcéré depuis 3 mois près de Paris, a vu sa première demande de remise en liberté rejetée vendredi par la justice, a appris l'agence France-Presse hier auprès de son avocat, confirmant une information du site Muslim Post. L'intellectuel musulman suisse de 55 ans, atteint de sclérose en plaques mais dont le traitement a été jugé compatible avec la détention, est incarcéré depuis son inculpation le 2 février à Paris pour viol et viol sur personnes vulnérables. L'enquête a été déclenchée en octobre par les plaintes de 2 femmes rejointes en mars par une troisième. Une 4e femme a porté plainte pour viol à Genève. Et Québec solidaire mise sur une candidate du privé qui entend mettre de l'avant l'environnement pour succéder au député sortant Amir Kadir dans la circonscription de Mercier. Ruba Ghazal, une gestionnaire environnementale d'entreprise manufacturière âgée de 44 ans, s'est lancée officiellement dans la course hier matin, épaulée par le député Gabriel Nadeau-Dubois. Avant de lui donner la parole, Amir Kadir a expliqué que Mme Ghazal était une amie de longue date, mais surtout une brillante professionnelle du milieu des affaires. Membre de longue date de Québec solidaire, la nouvelle candidate a défendu la laïcité en participant aux côtés de Françoise David à la commission Bouchard-Taylor en 2007. Elle se dit féministe après avoir décroché un baccalauréat en comptabilité à HEC Montréal et une maîtrise en environnement à l'Université de Sherbrooke. Elle a fait son chemin dans l'entrepreneuriat privé. L'aspirante au poste de députée a notamment travaillé chez Bombardier, Church & White et jusqu'à hier au sein de OI Canada, un chef de file en fabrication de contenants en verre avec une filiale dans Pointe-Saint-Charles.
Les jours fondent en instants, de brèves et de moments. Je ne me connais plus, tous mes repères perdus. Je croyais voir le monde pour ce qu'il était vraiment, mais son arrivée me tourmente et pourtant je me croyais plus forte, usée par notre époque. Mes plaies s'ouvrent pour lui, ne faut-il pas que je m'emporte? Le vent souffle vers l'est, de rire et de caresses, je tangue autrement. Et je suis somnambule, mon rêve devient silence et gère sans lui les doutes d'une incrédule, se perd le temps et la nuit. Et tout s'est décidé, je ne vis que d'idéaux, de mots cassés, je tente d'être complété. D'amour est inconnu. Et quand il m'enlace, je ne me sens plus lâche. Les défis d'autrefois me paraissent loin, et pourtant je sais que cette épreuve peut détruire à jamais les espoirs d'une vie parsemée de regrets. Et quand il me regarde, je sens mon cœur débattre. Être sans lui, c'est une mort qui s'annonce lentement. Le vent souffle vers l'est, l'océan me perce, je tangue tendrement. Et je suis somnambule, mon rêve devient silence et gère sans lui les doutes d'une incrédule.
Des plus récentes pièces de Madame Cœur de Pirate, c'était la pièce Somnambule de son album qui paraîtra très prochainement.
À la une du Devoir de ce mardi 8 mai, le nombre de demandeurs d'asile irréguliers explose. Pétrole et gaz, Québec a sous-estimé le nombre de puits abandonnés. L'État aurait hérité de 200 puits de plus que les 618 annoncés la semaine dernière. Les postes du futur, un voyage dans le temps. Des Montréalais ont rédigé 9000 cartes postales qui seront livrées en 2042. Québec solidaire, une cadre pour succéder aux médecins. Bâtiment 7, au service des citoyens de Pointe-Saint-Charles. Cannes, à l'heure de moi aussi, Kate Blanchett, actrice et militante, préside un jury majoritairement féminin. Quelques 2500 demandeurs d'asile sont entrés de manière irrégulière par le chemin Roxham en avril, soit 4 fois plus qu'au même mois l'an dernier. Pour endiguer cet afflux disproportionné de personnes au Québec, le gouvernement fédéral a promis lundi de rediriger rapidement les demandeurs d'asile vers l'Ontario, un processus qui pourrait prendre encore quelques semaines, a reconnu le ministre de l'Immigration. En compagnie de ses collègues des transports et de la sécurité publique, Ahmed Hussein a aussi annoncé des missions de sensibilisation au Nigeria, d'où proviennent la majorité des migrants qui entrent au Canada de manière irrégulière. Le ministre se rendra d'ailleurs lui-même à Lagos, la capitale de ce pays d'Afrique, comme le feront 3 représentants canadiens qui devront travailler avec les agents américains afin d'amener ceux-ci à resserrer leur processus d'octroi du visa. Le président national du syndicat des douanes et de l'immigration se dit déçu des mesures annoncées. C'est bien beau de faire de la sensibilisation et d'aller dans les autres pays, mais c'est une pièce du puzzle à une situation beaucoup plus complexe, a déclaré Jean-Pierre Fortin. Mais au-delà de ces annonces, ce qui a surtout choqué Maître Enfield, c'est la déclaration de Marc Garneau voulant que très peu de ces migrants se qualifieraient pour le statut de réfugié. Je pensais qu'on était pour nous apporter des solutions concrètes, mais il n'y a pas grand-chose de nouveau, ni rien pour régler la situation, a déploré pour sa part donc l'avocat en immigration Stéphane Hanfield. Maître Hanfield croit que le ministre outrepasse ses compétences, voire s'immisce dans celles du tribunal. Ottawa a aussi annoncé de nouvelles installations temporaires pour accueillir 520 personnes au poste frontière de la Colle pour des séjours de courte durée, soit environ de 2 à 3 jours. Le syndicat des douanes et de l'immigration déplore que jusqu'ici, il n'y ait pas de ressources supplémentaires prévues. Martine Ouellette relance les hostilités. La chef du Bloc québécois, Martine Ouellette, accuse les 7 députés démissionnaires d'avoir abandonné la promotion de l'indépendance en annonçant leur intention de fonder un nouveau parti qui pourrait être ouvert aux fédéralistes, ce dont se défendent les principaux intéressés. Les anciens députés du Bloc ont annoncé la semaine dernière leur intention de lancer une formation politique vouée à la défense des intérêts du Québec. L'un d'eux, Réal Fortin, s'était dit ouvert à inviter tout le monde à les rejoindre, y compris des collègues des partis fédéralistes. Martine Ouellette y voit la preuve que le Bloc québécois deviendra désormais le seul et unique parti à faire la promotion de l'indépendance du Québec. Les anciens députés de Martine Ouellette ont cependant rejeté son analyse de la situation. « On n'a jamais abandonné l'indépendance, on a tous dit qu'on était indépendantistes », a insisté le doyen du groupe Louis Plamondon au Parlement lundi. La main tendue aux fédéralistes le sera afin de les convertir, a-t-il voulu préciser. Une étude recommande d'impliquer davantage des influenceurs dans les campagnes faites pour stimuler le vote des jeunes au Québec. L'enquête poursuit dans les évidences en misant sur l'utilisation des médias sociaux et les nouvelles plateformes Instagram ou Snapchat pour les rejoindre avec du contenu vulgarisé dans des mots de jeunes par des jeunes. L'enquête met aussi au jour une spirale vicieuse qui entraînerait le vote de la jeunesse vers le bas. Les jeunes ont une forte perception que les partis politiques ne s'intéressent pas à leurs enjeux, alors que les leaders politiques ont, eux, le sentiment que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Le court rapport d'une 30aine de pages s'intitule « Participation électorale des millénarios, problématique, constat, levier ». Daté de mars 2018, il a été produit par l'Institut du Nouveau Monde et sera dévoilé officiellement ce mardi matin à Montréal. « Les résidents de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, devraient bientôt connaître un peu de répit alors que le niveau des eaux doit se stabiliser au cours des prochains jours. Pendant ce temps, au Québec, la crue tire à sa fin. Plus de 1050 personnes ont signalé à la Croix-Rouge qu'elles avaient évacué leur résidence alors que plusieurs autres sont allées vivre chez des parents ou des amis sans s'enregistrer auprès des autorités. La Croix-Rouge a lancé une campagne de financement destinée spécifiquement aux victimes des inondations du Nouveau-Brunswick. Du côté Québec, le niveau des eaux va en diminuant dans la plupart des régions, a indiqué le directeur des opérations de la sécurité civile, Jean Savard, au Devoir. On a une semaine de beau temps et les nuits fraîches font en sorte que la neige fond plus lentement, ce qui ralentit le ruissellement, explique-t-il. Via Rail a réalisé sa meilleure performance en une décennie pendant le 150e anniversaire du Canada, accueillant 4,4 millions de passagers, ce qui représente une hausse de plus de 10 % par rapport à son exercice précédent. Donald Trump va annoncer mardi sa décision sur l'accord conclu en 2015 pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire dont les États-Unis menacent de se retirer au risque d'ouvrir une période de forte turbulence. Après avoir tergiversé depuis son arrivée à la Maison-Blanche début 2017, le président américain devrait cette fois, de l'avis d'un grand nombre d'observateurs, faire un choix qui lui permette de tenir sa promesse électorale, démanteler l'accord signé par Téhéran avec les grandes puissances États-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni et Allemagne. Un électeur tunisien sur trois seulement s'est rendu aux urnes dimanche pour les premières élections municipales de l'après-révolution, une abstention massive qui sonne comme un désaveu cuisant pour la classe politique aux commandes depuis le printemps arabe. Si les résultats officiels ne seront connus que dans les jours à venir, les listes indépendantes pourraient aussi réaliser une percée dans un pays où nombre d'électeurs ont déploré un verrouillage du champ politique par les deux principaux partis, Nida Tounes et Ennahda. Vous écoutez l'émission Le quotidien des quotidiens à l'antenne de Canal M de Vues et Voix et c'est Hélène Denis qui vous accompagne avec plaisir. Merci d'être à l'écoute et restez avec nous dans un petit moment la revue de presse du Journal de Montréal.
Je veux chanter les danses.
On apprenait hier en fin de journée son décès, la chanteuse Morane, qui nous offrait ce succès de 1998, « Toutes les mamas ».
À la une du Journal de Montréal, il vend sa Lotus pour grimper le K2. Après avoir atteint le sommet de l'Everest, l'alpiniste Maurice Beauséjour s'était acheté une Lotus Elise. L'homme de 64 ans s'est résigné à vendre le véhicule de 50 000 $ pour financer sa nouvelle aventure, l'ascension du K2, qu'il entamera dans un mois. Aliments falsifiés chimiquement, des fraudeurs de plus en plus rusés. Et le règne des pingouins prend fin. Et oui, les Capitals l'ont emporté. Des migrants en détention de plus en plus longtemps. Depuis le début de 2017, ce sont environ 500 demandeurs d'asile qui ont été enfermés après avoir traversé illégalement la frontière à pied, la majorité pour des vérifications d'identité. Cette année, leur durée moyenne de détention s'est allongée à 24 jours contre 16 en 2017. D'après les informations obtenues par le Journal de Montréal, les enfants de certains de ces 500 migrants ont été enfermés avec leurs parents. Il a toutefois été impossible de connaître le nombre exact d'enfants de demandeurs d'asile ayant franchi illégalement la frontière depuis janvier 2017 à ayant été détenus. Dans la région de Montréal, les demandeurs d'asile placés en détention sont retenus au Centre de surveillance de l'immigration de Laval, une ancienne prison d'une capacité d'un peu plus de 100 lits. D'après le Haut Commissariat pour les réfugiés au Canada, moins de 1 % de ceux qui sont entrés de manière irrégulière au Canada ont été détenus pour des suspicions de criminalité. La chercheuse Janet Cleveland, qui a étudié l'impact de la détention sur les migrants, explique que la vie au centre de Laval ressemble à celle dans une prison, même si les personnes dorment dans des dortoirs plutôt que des cellules. Comme le Haut Commissariat pour les réfugiés au Canada et l'Organisation des Nations Unies, Mme Cleveland estime qu'il est urgent de n'utiliser la détention des demandeurs d'asile qu'en dernier recours et de mettre fin à l'enfermement des mineurs. Dans des courriels envoyés au journal, le ministère de la Sécurité publique du Canada rappelle qu'un rapport de chercheurs de l'Université de Toronto a constaté que le nombre d'enfants en détention au pays a diminué considérablement en 2016-2017, tout en s'engageant à instaurer un meilleur système de détention lié à l'immigration. La fraude alimentaire plus sophistiquée que jamais. Des producteurs paient cher pour falsifier les aliments et augmenter leurs profits. Les fraudeurs alimentaires sont à la fine pointe de la technologie et s'inspirent du dopage sportif pour créer des produits de plus en plus sophistiqués que les experts ont de la difficulté à détecter. La fraude alimentaire est un crime économique qui explose dans le monde, souligne Sébastien Rioux, titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie politique de l'alimentation et du bien-être au département de géographie de l'Université de Montréal. Alors, on donne des exemples de fraude alimentaire, cas d'adultération, donc fraude à grande échelle, le lait, le cas de la mélanine dans le lait en Chine, sirop d'érable, faux jus de fruits naturels, miel dilué, huile d'olive modifiée. Fausse représentation, fraude à plus petite échelle, changer la date de péremption, vendre un poisson ou une viande qui n'est pas celui affiché dans le comptoir, fausse certification biologique. Lorsque les inspecteurs inventent de nouvelles méthodes de détection, les fraudeurs innovent rapidement, une façon de contourner l'obstacle. Les cas de fraude se trouvent plus souvent dans la chaîne au niveau des grands distributeurs de produits avant d'être remis aux compagnies de distribution. Melania Trump sort de sa réserve. L'énigmatique et très discrète Melania Trump est sortie de sa réserve hier dans les jardins de la Maison-Blanche pour prendre ses marques dans son rôle de première dame et présenter un programme centré sur les enfants. Comme Laura Bush lutte contre l'illettrisme ou Michelle Obama lutte contre l'obésité, avant elle, l'épouse de Donald Trump a tenu à placer son passage à la Maison-Blanche sous le signe d'une cause avec un slogan simple « Be best », soyez meilleur. Lors d'une cérémonie soigneusement chorégraphiée, l'ancienne mannequin slovène a multiplié les mises en garde contre l'utilisation trop souvent négative des réseaux sociaux. C'est notre responsabilité d'adulte de rappeler aux enfants que de vive voix ou en ligne, ils doivent choisir leurs mots avec soin et parler avec respect et compassion, a-t-elle lancé. Plutôt à l'aise au podium, elle a lu son texte sur les trois téléprompteurs placés dans le Rose Garden, sans signe de complicité visible avec le 45e président des États-Unis. Elle a terminé en remerciant le président, le vice-président et les membres de l'administration présents. Selon un sondage CNN-SSRS publié hier, 57% des Américains ont une opinion positive d'elle, un chiffre en nette hausse par rapport à janvier, 47%. Il devrait s'en tirer pour 5 000 $, les 8 urologues accusés d'avoir facturé des frais déraisonnables de 300 $ pour des vasectomies ont conclu une entente avec le syndic du Collège des médecins et pourraient s'en tirer en ne payant que 5 000 $ chacun. Selon l'entente, les médecins de la clinique Uro-Laval reconnaissent que les frais de 300 $ pour des médicaments et agents anesthésiants qui ne valaient qu'une fraction de ce prix étaient susceptibles d'être considérés comme disproportionnés. Ils n'auront toutefois pas à se défendre devant le conseil de discipline puisqu'en échange des déboursés, le syndic a demandé le retrait des plaintes disciplinaires. Alors, une photo ici, 3 des 8 docteurs qui se sont présentés hier devant le comité de discipline du Collège des médecins, dont Dr Benoît Guertin, Dr Jean Simard, Dr Stephen P. Lapointe. Un autre médecin spécialiste a plaidé coupable d'avoir facturé des frais déraisonnables en avril dernier. Le docteur Philippe Saint-Gelais, qui pratique en Beauce, a été condamné à payer une amende de 5 000 $ pour avoir vendu 30 $ des gouttes ophtalmologiques qui valaient entre 70 cents et 3,84 $. Échec partiel pour le test d'alerte publique. Le message n'a pas été distribué sur les cellulaires en raison d'un espace superflu dans le code de programmation, a expliqué la porte-parole de l'organisme Patricia Valadao. Le test d'alerte publique qui a eu lieu hier au Québec a échoué sur les téléphones mobiles, a confirmé le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC. Ces messages d'alerte devaient être transmis à 9h55 sur les cellulaires connectés à un réseau LTE, ainsi qu'à la télévision et à la radio. Le test a seulement fonctionné dans ces deux derniers cas. Mme Valadao n'a pas pu confirmer si de nouveaux essais auraient lieu pour le Québec. Depuis le 6 avril dernier, le CRTC exige que tous les fournisseurs de services sans fil participent au système national d'alerte publique. Les messages d'alerte permettent d'avertir la population de menaces imminentes, notamment en cas d'incendie, de tornade, d'inondation, de contamination de l'eau et d'alerte en mer. Julie Boulay quitte par manque de motivation et d'énergie. Elle est la 5e ministre du Parti libéral qui décide de ne pas se représenter. Et Taillefer, lui, sera actif, mais écarte une candidature. L'homme d'affaires Alexandre Taillefer a l'intention de jouer un rôle dans la campagne électorale de l'automne, tout en assurant qu'il ne se présentera pas comme candidat pour un parti. Thank you.
ma musicologue, coucher auprès du ciel comme les astrologues, et dessous des clochers écouter en rêvant le rythme solennel emporté par le vent. Les deux mains ont entendu haut de ma mansarde, je verrai l'atelier qui chante et qui bavarde, les tuyaux, les clochers, les mâts de la cité, et les grands ciels qui font rêver comme il est doux à travers les brumes de voir naître l'étoile comme il est doux à travers les brumes de voir naître l'étoile. Et la lune versait son pâle enchantement. Je verrai des printemps, des étés, des automnes, et quand viendra l'hiver aux neiges monotones, je fermerai partout portières et volets pour bâtir dans la nuit mes féeriques palais. Alors je reverrai mes horizons bleuâtres, mes jardins des jets d'eau pleurant dans les... Comme il est doux à travers les brumes de voir naître l'étoile. Comme il est doux à travers les brumes de voir naître l'étoile. Comme il est doux à travers les brumes de voir naître l'étoile. Comme il est doux à travers les brumes de voir naître l'étoile.
Oh, halle, bougaine, bougaine, wakakmo.
Extrait de l'album Suite 2116, le dernier album des Colocs. C'était la pièce Paysage, car on se souvient, il y a 18 ans aujourd'hui, on perdait le chanteur et beaucoup plus poète André Fortin.
Allons-y avec un sujet peut-être un peu plus léger parce qu'on a toujours de la peine de cette disparition d'Édé Fortin. Le vélo partage plus accessible pour les citoyens, c'est dans le droit d'aujourd'hui, sous la plume de Sylvie Branche. Les vélos en libre-service seront plus accessibles aux résidents d'Ottawa au cours de la saison estivale. Un nouveau projet pilote de vélo partage qui permettra d'installer plus de stations sur le territoire de la ville doit débuter au cours des prochaines semaines. Par le passé, le système était également accessible pour les résidents, mais les stations de vélo-partage étaient situées dans des lieux à fort achalandage touristique. Le projet avec la ville nous permettra de rendre notre système plus accessible aux citoyens, affirme Josh Osman, gestionnaire de VéloGo pour la région, une entreprise qui est exploitée par la compagnie CycleHop. Les détails doivent être peaufinés, mais l'objectif est de faire passer la flotte de 300 à 500 bicyclettes. De plus, la compagnie souhaite installer près d'une cinquantaine de stations à travers la ville, comparativement à une vingtaine en 2017. Les vélos verts de la compagnie seront disponibles pour la location d'ici la fin du mois de mai. VéloGo roule dans les rues de la capitale depuis 2015. Le système de vélo partage, ce n'est pas juste pour les touristes. Les vélos sont utiles pour se rendre au travail, faire l'épicerie ou aller au gym, mentionne M. Holzman. C'est important d'offrir un service qui se jumelle bien avec les infrastructures cyclables existantes. Il faut considérer les touristes, mais les résidents aussi. Jean Boulet salue la carrière politique de sa sœur. C'est dans le Nouvelliste, avocat à Trois-Rivières et actuellement pressenti pour porter les couleurs de la Coalition Avenir Québec dans le comté de Trois-Rivières, Jean Boulet a salué la carrière politique de sa sœur Julie Boulet mardi après-midi. Celui qui refuse toujours de confirmer s'il sera ou non candidat pour la CAQ a préféré laisser toute la lumière à sa sœur mardi afin de souligner sa contribution à la politique depuis 17 ans en Mauricie. Je reconnais que son dévouement est remarquable. Elle a fait énormément de sacrifices, sa famille peut en témoigner. Elle a avancé en politique avec humanisme, détermination et intensité, toujours guidée par de saines motivations du service public, constate Jean Boulet. Alors que la possible venue en politique de Jean Boulet n'aurait pas influencé la décision de Julie Boulet de se retirer de la vie politique, l'avocat indique ne pas vouloir commenter, étant donné qu'il n'est, pour le moment, pas candidat. Dans le quotidien, Dominique Gobeil, en matière d'intelligence artificielle, le premier ministre québécois Philippe Couillard estime que le Québec a une parole utile à donner pour le développement de cette technologie dans ses aspects sociaux et éthiques. Invité d'honneur du 86e congrès de l'Association francophone pour le savoir, ACFAS, M. Couillard a pris la parole lundi lors de la soirée d'ouverture à l'Université du Québec à Chicoutimi, UQAC. Le politicien a souligné l'importance de rejeter la pensée unique alors que l'événement se déroule sous le thème de célébrer la pensée libre. Celui qui est aussi ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean assure qu'il compte le réseau de l'Université du Québec, créé il y a 50 ans comme un des grands actifs de la province. Il fait l'envie de plusieurs, mentionne-t-il. Parce qu'on n'a plus de moyens maintenant, il faut réfléchir encore plus à la façon de les utiliser. Le premier ministre suggère la piste de l'intelligence artificielle, domaine dans lequel le Québec a pris une longueur d'avance selon lui, mais où il peut facilement se faire rattraper par les pays aux ressources financières plus grandes. C'est une explosion de changement, croit Philippe Couillard. Les établissements d'enseignement supérieur en région peuvent, à son avis, contribuer à appliquer l'intelligence artificielle dans des domaines comme la foresterie et l'agriculture. Les hommes de science ont aussi une grande responsabilité pour transmettre leurs connaissances à la population, afin que le progrès technologique ne devienne pas une source supplémentaire de conflits dans la société. La présence de M. Couillard a été saluée par la rectrice de l'UQAC, Nicole Bouchard, et la présidente de l'ACFAS, Lynn Sauvageau, qui voilà le reflet de l'importance que le gouvernement accorde à la recherche. La ministre responsable de l'enseignement supérieur, dis-je bien, Hélène David, a décrit son chef comme le plus grand défenseur de l'enseignement supérieur en région. Certaines personnes dans l'Assemblée, composée de chercheurs toujours en quête de subventions, ne semblait pas tout à fait convaincue. Une femme s'est levée pour interpeller le premier ministre, mais elle n'a pas pu poser sa question à ce moment. La nomination de Mme David au ministère de l'Enseignement supérieur est d'ailleurs vue comme un bombe sur une plaie, encore récente, par la rectrice Nicole Bouchard. Signe que la libre pensée était réellement au rendez-vous, Lucac a convié le clown noir Diogène pour la deuxième partie des allocutions. Le choix du personnage philosophe pour suivre les discours de Philippe Couillard et d'Hélène David a de quoi faire sourire quand on pense que la troupe de théâtre est bien connue au Saguenay pour son humour grinçant et pour critiquer, entre autres, les décisions culturelles du gouvernement. Dans le soleil, Annie Morin, chantier archéologique d'envergure à l'ancienne Lorette. La région de Québec était due pour un gros chantier archéologique. Il se mettra en branle à l'ancienne Lorette dans les prochains jours et permettra de documenter le mode de vie des Hurons-Wendat, des Français et des Anglais qui ont tous occupé le site du futur centre communautaire. Depuis les préparatifs du 400e anniversaire de Québec célébré en 2008, l'activité archéologique tournait au ralenti dans la capitale. Mais voilà que la ville de l'ancienne Lorette finance des fouilles d'envergure dans son cœur villageois. Les travaux seront lancés d'ici 2 semaines et se poursuivront jusqu'à la fin de juillet à proximité du presbytère. Le bâtiment datant de 1893 et le stationnement environnant ont été acquis pour 485 000 $ de la fabrique de l'église Notre-Dame de l'Annonciation, le tout pour faire place à un nouveau centre communautaire. Mais avant de construire pour le futur, il faut regarder vers le passé. Un appel d'offres public pour des travaux d'archéologie a été publié. La coopérative de travail en archéologie, Gaïa, a remporté le contrat d'un peu plus de 500 000 $. Elle emploiera une trentaine d'archéologues, dont au moins la moitié affectée aux fouilles manuelles d'ici le dépôt du rapport final en mars 2019. Sur le terrain, environ 400 mètres carrés de sol seront fouillés manuellement et 300 mètres carrés excavés mécaniquement. L'ancienne Lorette demande également des recommandations pour la mise en valeur des trouvailles. Il est déjà prévu d'exposer des artefacts et des photographies du chantier dans le nouveau bâtiment ultramoderne qui sera greffé au presbytère rénové. La nation Huron-Wendat pourra récupérer les objets correspondant à la période d'occupation amérindienne de 1673 à 1696 pour les mettre en valeur dans son propre musée à Wendake. Et dans la tribune, Jean-François Gagnon, Ayerscliff dit non au condo du Ripple Cove. Après des négociations avec le promoteur et une longue analyse, le conseil municipal d'Ayerscliff a finalement rejeté la demande de changement de zonage du propriétaire de l'auberge le Ripple Cove, Richard Laliberté. Merci d'écouter le quotidien des quotidiens. Hélène Denis qui vous accompagne. Et il nous reste une demi-heure à passer ensemble avec les actualités culturelles et les sujets libres. Restez avec nous.
Oh, da-da-da.
Tiré de son album Univers parallèle, c'était la pièce Ta biographie, Damien Robitaille.
Actualité culturelle, très mauvaise nouvelle, Morane retrouvée morte à Bruxelles. La chanteuse de 57 ans venait de renouer avec la scène. La chanteuse belge qui venait tout juste de renouer avec la scène s'est éteinte à l'âge de 57 ans, a annoncé la chaîne télévisée belge RTBF hier soir. Selon la chaîne, l'icône de la chanson francophone a été retrouvée hier soir dans son lit en banlieue de Bruxelles. La cause de son décès n'a pas été précisée. Née en 1960, Morane a été découverte par le grand public en 1983 avec la chanson « Danser », tirée de l'album du même nom. La même année, Michel Berger lui offre le rôle de Marie-Jeanne dans la deuxième mouture de l'opéra rock Starmania qu'elle défendra pendant 6 mois. Depuis, elle avait publié une dizaine de disques, incluant Morane en 1989, qui lui avait permis par la suite de se produire à l'Olympia. La chanteuse avait dû abandonner la scène en 2016 en raison de problèmes aux cordes vocales. Elle était toutefois revenue à la chanson la semaine dernière en participant à un festival à Incourt en Belgique consacré à Jacques Brel. Aujourd'hui, je remets officiellement les pieds sur une scène après plus de 2 ans d'absence. Je ne vous dirai pas dans quel état je suis. Vous devez vous en douter, s'est réjouie la chanteuse le 3 mai sur son compte Facebook. Morane a donné son dernier spectacle à vie dimanche, à l'occasion de la fête de l'Iris à Bruxelles. La chanteuse planchait sur un nouvel album prévu pour l'automne 2018, dont un premier extrait devait paraître l'été prochain. Elle envisageait de partir en tournée en mars 2019.
Toi qui courais dans les flaques, moi et ma tête à claque. Voyez ma chose, ma bestiole, et moi je n'étais qu'un pot de colle. Lorsque j'entends ce prélude de Bach par Glenn Gould, ma raison s'envole.
Ouf, très belle chanson. Sur un air de Bach, évidemment. Alors, on poursuit avec Léa Clermont-Dion qui répond à Arcan. Lors de son passage à Tout le monde en parle, dimanche, Denis Arcan a parlé de féministes enragées, ce qui a soulevé une certaine indignation sur les réseaux sociaux. Léa Clermont-Dion a répondu au réalisateur sur sa page Facebook. « Vous avez adopté hier un ton méprisant envers celles qui construisent un monde plus égalitaire, celles qui s'indignent face aux violences. Et si la colère les habite, c'est qu'il y a aussi de la souffrance, des blessures et des abus. Pourquoi ridiculiser avec tant de condescendance une quête de justice? Les féministes que je connais sont indignées, en colère, mais elles rayonnent aussi par leur mobilisation, leur solidarité, leur argumentaire, a écrit la co-animatrice de Mitsu et Léa. À l'intention du cinéaste dont le prochain film « La chute de l'Empire américain » sortira en juin, elle poursuit « Vous vous intéressez au déclin de l'Empire américain. C'est vrai que vous en êtes un témoin privilégié. Vous y prenez vous-même part. En 1970, vous dénonciez avec intelligence les abus des élites. Aujourd'hui, vous en êtes un porte-étendard. PS, je suis une féministe enragée. » La première semaine de la diversité théâtrale aura lieu du 14 au 17 mai à Montréal, présentée par le Conseil québécois du théâtre CQT, Diversité artistique Montréal, DAM et la compagnie Modern Times. Cet événement a été conçu par les membres du comité théâtre et diversité culturelle du CQT, dont le porte-parole est Charles Bender. Les activités s'adressent principalement aux professionnels, mais deux d'entre elles peuvent accueillir un plus large public à condition de réserver sa place. Il s'agit de la table ronde d'ouverture portant sur les nouvelles alliances et initiatives de mixité théâtrale et de la conférence débat « L'altérité des artistes, les artistes de l'altérité ». La directrice du Théâtre du Nouveau Monde, Lorraine Pintal, mettra en scène « Je veux de l'amour » le 14 mai sur la scène du TNM. Inspirée par la pièce inespérée et inattendue de Régent Ducharme, ce spectacle est inscrit et interprété par des bénéficiaires de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, ainsi que des membres du Théâtre aphasique, des Impatients et des Muses, collaboration spéciale de Pascal Montpetit. « Je veux de l'amour » est présenté au TNM le lundi 14 mai à 19h et l'entrée est libre. Le prix Émile Nelligan va à François Guérette. C'est un livre abouti et fort accompli par un poète qui y démontre l'ampleur de son talent qui a été retenu lundi par le jury de la Fondation Émile Nelligan. Le 39e prix Émile Nelligan, Constellation des grands brûlés, de François Guérette tire sa force dans la fluidité des figures et la souplesse avec laquelle les images sont liées et s'entremêlent, a déclaré le président du jury, José Aquelin. Stinless est de Hugo Beauchemin-Lachapelle et À propos du ciel, tu dis, de Sarah Brunet-Dragon, étaient les deux autres finalistes de ce prix qui couronne un poète de 35 ans ou moins pour un recueil publié en français au cours de la dernière année. Décès de l'animateur et journaliste André Payette, son éternel nœud papillon était devenu en quelque sorte l'étendard de Nord-Sud, son émission diffusée par Radio-Québec. Pendant 8 ans, André Payette y a invité ses auditeurs à mieux saisir les tensions planétaires par l'entremise d'une formule comprenant un reportage, une entrevue et un bulletin d'information. L'émission s'est arrêtée en 1991. Ce sera la dernière grande émission à laquelle son image fut directement associée. Ses débuts dans le journalisme professionnel remontent en 1953 à Trois-Rivières, à l'antenne de CHLN, où il travaille à compter de 1954. Il se trouve aux côtés de Georges Dor, Raymond Lebrun, Jacques Dufresne, Gilles Leclerc, Pierre Bourgault, mais aussi son épouse. En 1951, André Payette a épousé Lise Ouimet, bientôt connue comme animatrice puis comme ministre sous le nom de Lise Payette. Avant de divorcer en 1972, le couple aura 3 enfants, Daniel, avocat, Dominique, journaliste et Sylvie, scénariste. Tokyo, un musée d'art unique au monde. La cascade dévale le long d'un mur et envahit la pièce. L'illusion est parfaite. Bienvenue dans le nouveau musée du collectif japonais Team Lab, qui s'est fait connaître par ses spectaculaires expositions d'art numérique et œuvres et ouvre un espace dédié cet été à Tokyo. Promenade bucolique au milieu d'une rizière, balade urbaine dans un entrelac de lampes, plongée dans un océan de vagues et dégustation d'un vrai thé vert agrémenté d'une fleur virtuelle. Au cours de sa déambulation, le visiteur est totalement immergé dans des installations en perpétuel changement. Au programme également des activités ludiques comme cette forêt où on peut crapahuter sur des collines, s'envoler dans l'espace en sautant sur une sorte de trampoline ou battre le rythme à l'unisson d'une centaine de danseurs traditionnels en forme de silhouettes translucides. Au fil de 5 différents univers, les œuvres réagissent au contact du spectateur et le suivent dans son parcours, un processus qui est le fruit de complexes algorithmes.
J'avance sans peur.
Et on vient d'entendre la chanteuse Barbara Carlotti avec la pièce « Voir les étoiles tomber », c'est de son plus récent album « Magnétique ».
Sujet libre, les postes du futur. Un voyage dans le temps, des Montréalais ont rédigé 9000 cartes postales qui seront livrées en 2042. C'est un texte de Caroline Monpetit dans Le Devoir d'aujourd'hui. Dans 25 ans, les voitures pourront voler, les animaux parler, les téléphones intelligents contiendront 100 millions de gigaoctets et il n'y aura plus de policiers. C'est du moins ainsi qu'un enfant de l'école primaire à Lyon a envisagé l'avenir sur la carte postale qu'il a écrite pour le projet. Les postes du futur, c'est le nom du projet, mené l'été dernier par l'organisme Comptoir public. À bord d'une camionnette, l'équipe de Comptoir public a sillonné les 19 arrondissements de Montréal pour inciter les gens à écrire une carte postale qui sera postée en 2042, soit à l'occasion du 400e anniversaire de Montréal. Cette carte pouvait être adressé à un proche, à une institution, aux personnes qui habiteront à l'endroit où les rédacteurs vivaient présentement, et même à eux-mêmes. À l'aide d'un objet en voie de disparition, la carte postale est d'un geste tout aussi menacé, l'écriture manuscrite, les participants de tous âges et de toutes les couches sociales ont été invités à se projeter dans l'avenir. La proposition a suscité un vif intérêt dans le public. Au cours de l'été, Comptoir public a récolté plus de 9000 cartes postales au contenu divers. Et il n'était pas rare que l'exercice suscite de fortes émotions parmi les participants. On se retrouvait avec des gens qui venaient nous voir en larmes, comme si la carte postale qu'ils venaient d'écrire était leur bien le plus précieux, raconte Antoine Beaudoin-Jantaise, l'un des instigateurs du projet. Cela ouvrait une perspective sur le futur, sur la fragilité de la vie. Et il y a des gens qui réalisaient qu'ils ne seraient plus là dans 25 ans. Alors que les jeunes de Comptoir public avaient au départ surtout en tête d'amorcer une réflexion sur des thèmes sociaux, ils se sont rendus compte que le projet a rapidement débordé sur le territoire de l'intime. Certaines personnes ont confié à la carte postale de grands secrets. Un père raconte à sa fille qu'il croit avoir échoué auprès d'elle et qu'il espère qu'elle lui pardonnera. Une personne raconte que sa famille vit dans sa maison depuis 5 générations et qu'il y a des choses cachées dans les planchers. L'idée de ce projet a d'abord germé dans la tête d'Antoine Beaudoin-Jantaise et de Chloé Saint-Cyr, auxquels se sont rapidement joints Guillaume Duval et Gabriel Léger-Savard. Elle est venue d'une certaine fascination pour les cartes postales, ces objets du passé, mais aussi d'une interrogation sur l'avenir. Dans notre génération, il y a un questionnement au sujet du monde actuel, raconte Antoine Beaudoin-Jantaise, qui a 29 ans. On se demande, qui sommes-nous en tant que génération? Qu'est-ce qui va se passer dans le futur avec les angoisses de notre société? Alors, on s'est dit que ce serait intéressant de communiquer avec le futur pour voir si ce qu'on pense aujourd'hui va se répercuter dans le futur. Antoine Beaudoin-Jantaise relève aussi que sa génération vit énormément dans le moment présent et qu'elle a du mal à se projeter si loin. En fait, ce sont les jeunes en milieu scolaire qui se sont davantage exprimés sur des questions sociales et politiques, ont constaté Guillaume Duval et Antoine Beaudoin-Jantaise. Les réflexions sur le plan de l'écologie et de la politique, cela ressortait assez fort chez les jeunes dans les écoles. Chez les 35-40 et plus, on voyait plus de trucs liés à soi ou au futur. Plusieurs jeunes ont par exemple exprimé des inquiétudes au sujet de la présence du gouvernement Trump à la tête des États-Unis. Ça n'est pas étonnant, racontent les organisateurs, dans la mesure où le nom de Donald Trump est omniprésent dans les réseaux sociaux. Guillaume Duval a aussi été étonné de voir à quel point les jeunes ont exprimé le souhait de voir les échanges humains persister malgré l'omniprésence de la technologie. Et ceux qui tripaient sur la technologie ont dit souhaiter que celle-ci serve à la cause écologique, dit-il. Certaines personnes ont écrit au futur maire de Montréal pour réclamer la fin de la corruption ou de la politicaillerie. Plusieurs se sont intéressés à l'urbanisme. D'autres ont raconté l'histoire de leur maison, des arbres qu'ils ont eux-mêmes plantés, etc. Les cartes postales amassées par les postes du futur seront conservées durant 25 ans à la médiathèque du musée Pointe-à-Calière. Ensuite, elles sont destinées à être renvoyées dans la population, à chacun des destinataires mentionnés. Et si les services postaux traditionnels n'existent plus en 2042, il y aura bien un service de messagerie capable de les livrer à bon port, soutient Guillaume Duval. Les images ornant les cartes postales du futur ont été conçues par une quarantaine d'artistes de Montréal qui ont eux-mêmes signé des messages. Vue du Mont-Royal 2017, quelle sera la couleur du ciel en 2042? Demande Dominique Blain. Mardi 15 avril 2053, 7h30, comme tous les jours. Paul part au travail en ballon autonome, écrit Clément Guégan. Le projet a retenu l'attention de deux chercheuses du Centre de recherche Culture, Arts, Société. Magali Hull et Katharina Niemeyer, toutes deux professeures à l'UQAM, présentent par ailleurs une conférence à ce sujet vendredi au congrès de l'Association francophone pour le savoir à Chicoutimi. En fait, les postes du futur ont surtout permis de faire un état des lieux du présent, dit Katharina Niemeyer en entrevue. On sentait que les gens étaient confrontés à leur finitude. C'est donc une nostalgie du temps présent qui a été exprimée. Ces cartes, disent-elles, ont été lancées comme des bouteilles à la mer. Il sera fascinant d'en suivre le chemin dans 25 ans. Alors voilà pour cet article, Un voyage dans le temps. C'est dans Le Devoir d'aujourd'hui, sous la plume de Caroline Montpetit. La section Pause santé dans la presse, la poigne comme indicateur de déficit cognitif. C'est un article de Mathieu Perrault. La force d'une poignée de main peut aider au pronostic des maladies psychiatriques selon deux nouvelles études australiennes. Un entraînement musculaire pourrait même aider à prévenir les déficits cognitifs liés aux problèmes de santé mentale. Le contexte. Depuis une dizaine d'années, plusieurs études ont utilisé la force de la poignée de main comme indicateur de la masse musculaire générale d'une personne. C'est assez constant. Plus une personne a une poigne forte, plus sa masse musculaire est importante, explique Joe Firth, psychologue à l'Université Western Sydney, qui est l'auteur principal des deux études publiées à la mi-avril. Il y a des différences entre femmes et hommes, mais on en tient compte. M. Firth précise que la poignée de main comporte en outre une dimension de motricité fine, qui pourrait permettre d'établir un lien encore plus direct avec la santé cognitive. La genèse, la force de la poignée de main, a tout d'abord été étudiée par des chercheurs en gériatrie, comme indicateur de la démence liée à l'âge. Les médecins savaient d'une manière anecdotique que les patients qui soudainement avaient une poignée de main moins ferme quand ils arrivaient à leur rendez-vous semblaient plus à risque de développer de la démence, explique Joe Firth. Des études ont montré que l'affaiblissement de la force de la poigne est lié à la perte de matière blanche dans le cerveau, molécule importante pour le fonctionnement cognitif. Il était tout naturel de voir si ça pouvait s'appliquer aux autres déficits cognitifs, par exemple, ceux qu'entraînent les problèmes de santé mentale. Le psychologue australien s'intéresse plus généralement aux facteurs connexes aux troubles mentaux et à la démence, qu'il s'agisse d'exercice physique, de régime alimentaire ou d'usage de drogue ou d'alcool. Ce que révèle l'étude. L'étude publiée dans la revue JAMA Psychiatry a évalué les performances cognitives et la force de la poignée de main de 110 000 personnes, dont 23 000 étaient atteintes de dépression majeure et 1 500 de maniaco-dépression. Celle du bulletin qui concerne la schizophrénie a fait les mêmes analyses chez 475 000 personnes, dont 1 000 personnes avaient des troubles psychotiques, principalement la schizophrénie. Les résultats sont clairs, dit M. Firth. Les différents types de mémoire et le temps de réaction sont tous meilleurs chez les gens qui ont une poignée de main plus forte. Les données ont été extraites d'une vaste base de données médicales britannique, UK Biobank, lors d'études postdoctorales de M. Firth à l'Université de Manchester. Et maintenant, le psychologue d'origine écossaise a lancé une intervention visant à augmenter la masse musculaire de patients atteints de dépression majeure pour voir s'ils vont guérir plus vite. Il veut également déterminer si pour la démence liée à l'âge, les activités physiques augmentent l'effet bénéfique des activités cognitives. On dit souvent que les personnes âgées qui font des mots croisés ont moins de risques de démence, dit M. Furt. Mais on a vu que l'effet de l'activité physique musculaire est tout aussi grand. Comme il s'agit de deux mécanismes biochimiques différents, il se peut que des interventions physiques et cognitives aient encore plus d'effets protecteurs. Il serait aussi intéressant, selon lui, d'examiner le processus biochimique responsable de l'effet protecteur de la masse musculaire sur les capacités cognitives des personnes âgées et des patients psychiatriques. Il s'agit visiblement de molécules qui traversent la barrière entre le système sanguin et le cerveau. Peut-être pourrait-on trouver de nouveaux médicaments. 1,5 % des Canadiens auront un diagnostic de maniaco-dépression dans leur vie. C'est tout pour le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée. Profitez-en, il fait tellement beau. Merci, mon cher Jean-Sébastien Laliberté, à la mise en onde et au choix musical. Je vous retrouve au Par Actualité.